Radio Courtoisie, bienvenue pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Chrétienté. Ce soir, nous aurons deux intervenants très différents et nous renouvelons en quelque sorte cette découverte de ce qu'est la chrétienté. La chrétienté, c'est d'abord spirituel, mais c'est aussi temporel. C'est l'union du temporel et du spirituel. Eh bien, nous allons parler de la guerre parce que c'est le triste temporel et qu'on ne peut pas y échapper. Émeric Choprade viendra nous entretenir dans trois quarts d'heure de cette guerre et essayer un premier bilan si on peut essayer. Et à ma droite pour l'instant, j'ai l'abbé Pedro Gubitoso qui m'a succédé à la tête du Centre Saint-Paul. C'est assez lourd finalement. Hein. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas lourd.
Bonjour monsieur l'abbé, merci pour l'invitation.
Et vous allez donc nous parler, comme à vous paroissiens, mais de la semaine de Pâques, et en particulier du jeudi, vendredi, samedi saint.
Tout à fait. Hier soir, j'ai eu l'occasion de faire au Centre Saint-Paul, donner au Centre Saint-Paul une conférence pour préparer les fidèles à la semaine sainte, sur les paroles d'adieu du Seigneur. Donc les chapitres 13, ce qu'on appelle les paroles d'adieu du Seigneur, sont les chapitres 13 à 17 de Saint Jean, voilà, qui nous rapportent fidèlement
la scène du Seigneur. Chers amis auditeurs, si vous avez une Bible qui traîne, n'hésitez pas à l'ouvrir. Ça fait du bien d'ouvrir la Bible de temps en temps et à l'ouvrir au chapitre 13 de Saint Jean. Donc dans le Nouveau Testament, c'est la deuxième grande partie de la Bible, l'Ancien Testament d'abord, le Nouveau Testament ensuite. Et dans ce Nouveau Testament, cet évangile de Saint Jean qui est brillantissime, qui est comme venu d'ailleurs, qui est... je ne sais pas s'il existe de plus beau texte que l'évangile de Jean. Je dirais, s'il existe peut-être ces deux premiers chapitres de Saint Luc qui appartiennent à la Vierge Marie, puisqu'elle le signe. Elle signe ces deux chapitres de Saint Luc, l'Annonciation que nous venons de célébrer, la Visitation... cette partie de l'évangile selon saint Luc est tout à fait particulière et peut
aussi
oui. Rivaliser avec saint Jean.
Tout à fait. Oui, les évangiles de l'enfance, il y a quelque chose de très touchant. Mais voilà, aussi très touchant aussi à ce passage de.
Et à chaque fois, on se dit le seul témoin, c'est la Vierge Marie. Alors où elle a parlé à un témoin, où elle a elle-même écrit son témoignage. Il ne faut pas oublier que le peuple juif est un peuple de l'écriture. Les hommes et femmes savent écrire.
Oui, tout à fait. Et donc oui, ce passage de Saint Jean est particulièrement touchant parce que c'est ce qu'il a d'absolument unique, c'est que cette atmosphère de la scène très cordiale où Jésus parle à leurs apôtres ouvertement, comme eux-mêmes le diront,
alors,
chapitre 16.
Alors qu'il sait que le lendemain matin, on viendra l'arrêter.
Oui, dès qu'il se lève à la fin de façon de la scène, il part directement déjà au
Jardin
des Oliviers et ça commence.
Le lieu de son arrestation.
Oui, donc c'est vraiment le tout dernier moment avec ses apôtres où il leur parle ouvertement, de cœur à cœur. Et c'est la première fois que Saint Jean dit explicitement que Jésus aimait ses apôtres. Et on voit à quel point il aimait en fait ses disciples. Et c'est ce qui a toujours beaucoup marqué, je pense, beaucoup d'auteurs d'ailleurs, qui voient chez Jésus cet amour des disciples qui est inconditionnel.
Et cet amour des disciples, c'est sur nous qu'il se reporte d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. Mais Saint Jean le dit déjà.
L'amour de Dieu, c'est l'essentiel du christianisme, c'est ça. Le christianisme, ce n'est pas une loi. Le christianisme, c'est une foi. Et une foi qui nous dit, tu peux compter sur Dieu.
Oui.
Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de ready-made ou de prêt à faire, tout préparé, non. Mais il y a ce geste de la foi.
Voilà, et c'est précisément par ça qu'il commence le chapitre 13, c'est-à-dire par ce petit prologue. Déjà, il y a un prologue chez Saint Jean au chapitre 1er qui condense tout l'évangile, mais pour les discours d'adieu du Seigneur, on a aussi un prologue qui va condenser toute la passion du Christ, en fait, et la résumer en une phrase, qui est cette phrase connue.
Alors, vous allez nous lire cette phrase ?
Oui, alors, je ne l'ai pas ici, mais bon, oui. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin. Donc c'est Saint Jean avait déjà dit auparavant que Jésus, que Dieu nous aime. Hein. On pense au chapitre 3, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mais c'était d'une manière un peu générale. Là, il dit qu'en fait, Jésus aime ses disciples, en fait, ses apôtres qui étaient là, et, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Voilà, on passe un cap. C'est la première fois qu'on voit Jésus dire à leurs apôtres, en fait, en tout cas chez Saint Jean, qu'il les aime.
Et il aime les siens. Et ça, je trouve ça particulièrement significatif à une heure où on voudrait imposer l'idée d'un christianisme qui soit uniquement un universalisme. En tout cas, finalement, l'essentiel serait d'aimer tout le monde. Mais c'est pas du tout ça dans les textes. Dans les textes, Jésus aime les siens.
Mais en tout cas, oui, je pense que ces chapitres de Saint Jean, et il y a un vrai départ de réflexion pour tout cela. D'ailleurs, vous en avez parlé dans votre livre, je crois, Le prix de la fraternité. Quand Jésus prie pour la paix, ben c'est vraiment une paix qui vient d'en haut. Ce n'est pas une paix qu'on peut imposer par l'idéologie, par un universalisme abstrait ou une partie qui essaye de rassembler tout le monde d'une manière artificielle, par des slogans ou par des...
Non, c'est chacun qui a son propre parcours. Mmh. Et j'aime dire qu'il y a deux aspects dans la vie chrétienne. Il y a la morale des commandements. Alors les commandements de Dieu sont limités aux 10 commandements du chapitre 20 de l'Exode. Et il y a aussi la vocation. Et la vocation, c'est quelque chose de personnel, de particulier, que personne ne peut juger que Dieu. Et je pense que le calendrier vous ramenant à Pâques, chers amis auditeurs, vous pouvez, avec fruit, réfléchir à nouveau sur cette idée de vocation et sur l'idée qu'il n'y a pas un chrétien semblable à l'autre. Tous les chrétiens sont différents. C'est ce qui fait l'unicité du monde chrétien par rapport à une religion de la loi comme est l'islam. Là, il n'y a pas le deuxième étage, il n'y a pas la vocation personnelle.
Mmh, absolument. Et...
Alors là, donc, c'est très personnel. Jésus convoque ses disciples pour un dernier repas.
Oui, il les convoque et non seulement, donc il veut fêter la Pâque avec eux. Bon, on ne va pas rentrer ici dans tous les débats exégétiques compliqués parce que sur la date de Pâques, parce que effectivement, dans les évangiles synoptiques, donc c'est-à-dire chez Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc, on dit que c'était un repas pascal, alors que chez Saint Jean, comme on vient de lire, c'était avant la fête de la Pâque, le jeudi saint. Il y a plusieurs thèses pour concilier tout ça. En tout cas,
Et il me semble que l'idée la plus intéressante, c'est de se dire que toutes les églises qui fixent la Pâque en Nisan tiennent à leur date et contre l'ensemble de l'église. Et il y a une lettre au pape Victor qui montre bien que cette distinction des dates de Pâques, elle est originaire et elle est déjà chez les juifs, donc même avant le christianisme. Alors si on veut aujourd'hui ne faire qu'une seule date de Pâques, c'est bien gentil, mais...
Bah déjà chez les juifs, c'est ce qui complique un peu la question, c'est que chez eux la Pâque, c'est une fête qui durait 8 jours en fait. Le premier jour, il avait l'immolation et la mendication de l'agneau, et les 7 jours qui suivent étaient les jours des azimes. Donc il se peut très bien, alors la thèse classique c'est que en fait, Jésus a fêté la Pâque légale le 14 Nissan. Et le lendemain, en fait, c'était le deuxième jour de la Pâque, qu'on appelait la Pâque aussi, mais on mangeait les azimes. Donc quand les Juifs ne veulent pas rentrer dans le prétoire parce qu'ils devaient manger la Pâque, on parlait non pas de l'agneau qu'ils avaient déjà mangé la veille, mais des azimes. Mais une thèse très intéressante...
Et les azimes, c'est le pain azime, ressemble à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, en fait, c'est du pain, pour ceux qui connaissent les restaurants libanais... C'est le pain libanais.
Oui, voilà, c'est le pain sans levain. Sans levain, oui. Tout à fait. Et donc, la thèse, une thèse très intéressante, c'est celle de Ratzinger dans son livre Jésus de Nazareth. Donc, Benoît XVI, pardon, excusez-moi, parce qu'il a déjà écrit en tant que pape, si je ne m'abuse.
Il voulait pas que ces écritures de spécialistes possèdent la mention écrit par le pape.
Oui, bon, c'est un texte ex professo, comme on dit.
C'est un texte
Il n'est pas
dans lequel il se
revêtu
reconnaît, mais
de son
tout à fait.
autorité pontificale. Mais et la thèse qu'il soutenait, c'est que effectivement Jésus aurait fêté la Pâque avec ses apôtres un jour avant, si je me souviens bien, et que en fait, du coup, il serait mort le jour de la Pâque légale. Donc quand les synoptiques disent qu'il mange un repas pascal, c'est qu'en fait c'est symboliquement, c'est que Jésus aurait donné à ce repas un sens pascal et que le lendemain, et ça c'est riche de sens aussi, il serait mort sur la croix, donc vers 15, à 15h, au même moment à peu près où les grands prêtres seraient en train d'égorger les agneaux pour la Pâque.
Mais le
Donc,
sacrifice chrétien n'est pas un sacrifice de sang. Et d'une certaine façon, c'est le premier des sacrifices chrétiens, c'est la Sainte Messe. C'est l'Eucharistie, le jeudi saint au soir.
oui, tout à fait. Alors, ce qui est
Le dernier
intéressant,
repas.
ce qui est curieux, c'est que Saint Jean, lui, il ne mentionne pas l'institution de l'Eucharistie. En tout cas, pas implicitement. Ça, on le trouve chez les synoptiques. Mais les raisons pour cela, qu'on peut trouver tout simplement, c'est que, bon, comme son évangile est écrit plus tard, peut-être qu'il s'est dit, bon, cela a déjà été décrit.
Cela est écrit tous les dimanches
Voilà.
à la messe
En plus,
pour
d'autre part,
une jeune communauté chrétienne.
son évangile contient déjà un discours eucharistique très important, qui est celui sur le pain de vie,
Voilà, alors ça c'est très important.
chapitre
Chapitre
6,
6, oui.
voilà, tout à fait. Et aussi,
On peut peut-être citer, Mon corps est
oui.
vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour.
C'est ça, et beaucoup de disciples le quittèrent à ce moment-là parce qu'ils
Ils l'ont pris pour un fou.
Et donc ça c'est une des
Mais
raisons.
l'Église
Donc
n'en est pas morte et au contraire, elle en vit.
ah
Elle en
oui,
vit tous les jours de ce
absolument.
sacrifice eucharistique.
Voilà. Et donc Saint Jean, voilà, c'est pas nécessaire de le mentionner. Et en plus, on peut trouver une mention implicite dans l'Eucharistie dans cette phrase que nous venons de citer, enfin tout à l'heure, pour le prologue des discours des adieux. C'est quand il dit, il les aima jusqu'à la fin. C'est pas seulement la fin de ses jours, c'est jusqu'au bout de ses forces, c'est-à-dire jusqu'à subir la mort de croix ou accepter la mort de croix, et jusqu'en fait à se donner comme nourriture dans l'Eucharistie en fait. Donc il les
C'est le
aima
neutre
jusqu'au
verset de
bout.
Saint Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime.
Oui, voilà. Ou évidemment pour nous qui sommes de l'Institut du Bon Pasteur, ça résonne tout de suite avec le chapitre 10 de Saint
L'Institut
Jean.
du Bon Pasteur.
Voilà, qui donne sa vie pour ses brebis. Et d'ailleurs,
Personne ne
qui.
la prend, ma vie, mais c'est moi qui la donne.
Voilà, personne ne me la ravit, mais c'est moi qui la donne et je peux la reprendre. Donc, voilà. Ce qui, évidemment, est très. Voilà, en lien avec tout ce que dit Saint Jean, parce que dans le même passage, c'est mentionné Jésus, sachant que son heure était venue. Ça veut dire que Jésus reste maître des événements, tout de même. Paradoxalement, il ne subit pas sa passion. Alors que passion, ça veut dire subir. En fait, il accepte sa passion. En fait, il y a, pour le coup, je pense ici, une différence avec le paganisme. Jésus n'est pas un héros païen, pur et simplement, qui lutterait contre un destin aveugle qui l'écraserait. Mais c'est vraiment, voilà, le fils de Dieu d'une providence amoureuse qui embrasse volontairement en restant maître pendant sa passion. Il sait, Saint Jean
Ma
insiste
vie,
beaucoup.
personne ne la prend, mais c'est moi qui la
C'est
donne.
ça, voilà.
Là, vous avez vraiment le verset du chapitre 10 de Saint Jean.
Oui, ils disent que son heure était venue aussi, c'est-à-dire c'est la même heure dont Saint Jean parle au moment des noces de Cana. Mon heure n'est pas encore venue. Et cela revient à beaucoup de moments, c'est-à-dire que la vie de Jésus est tendue vers ce moment du sacrifice et qu'il sait que ça va arriver
Et que
tôt
ce
ou tard.
sacrifice, c'est celui de sa volonté. C'est pourquoi le
Oui.
premier des sacrifices est non sanglant.
Oui.
C'est le sacrifice du pain et du vin,
Je pense que ça, c'est un
comme
point très important.
Melchisédek.
Tout à fait. Quand on regarde un crucifix, je pense pas que les plaies et le sang, c'est pas la première chose qu'on doit voir. Mais c'est vraiment cette phrase de Saint Paul, il m'a aimé, il s'est livré pour moi. C'est voir le motif rédempteur qu'il y a derrière, c'est-à-dire un manque d'amour, comme le péché originel, ne se répare qu'avec un acte d'amour, en fait. Un désamour ne se répare qu'avec de l'amour. Et donc, c'est par la charité, par son acte d'amour que le Christ nous rachète, qui se fait dans la passion, mais il aurait pu faire autrement.
L'amour s'éprouve dans la passion.
Oui, s'éprouve dans la passion, bien sûr.
S'éprouve dans la souffrance.
Le christianisme n'est pas un dolorisme.
On a ce Dieu formidable, enfin, qui veut connaître la souffrance.
Oui.
Qui veut savoir qu'en faire et montrer aux hommes quoi faire de la souffrance.
C'est ça, en fait.
Il ne s'agit pas de quelque chose de morbide, d'un attachement morbide.
Non,
c'est pas du tout ça. Il s'agit, dans la vie, on a toujours des contrariétés, des contradictions, des preuves. Bah,
c'est sûr que la souffrance, c'est souvent une preuve d'amour comme nul autre. C'est-à-dire, si je demande à n'importe qui, pensez à une personne qui vous aime, vous êtes sûr que cette personne vous aime, bah, cette personne, un jour ou l'autre, a souffert, a enduré quelque chose pour vous. Ça va de soi. Parce que l'amour, l'amitié s'éprouve surtout dans ces moments-là. Quand tout va bien, c'est facile d'être...
Quand on est d'être... capable de préférer l'autre à la douleur qu'on éprouve soi.
C'est ça, ouais. Là, il y a une vraie amitié. Arriver à faire passer le bien de l'autre avant...
Et il y a ce vrai christianisme mode d'emploi qu'on n'a plus. Parce que dans les années conciliaires, on a quand même beaucoup mis en cause ce culte de la souffrance, ce Dieu censé aimer la souffrance, comme dit je ne sais plus quel théologien. En fait, non. Dieu nous donne le mode d'emploi de cet envers terrible de notre existence.
Oui, bien sûr. Ce qui rachète, c'est vraiment l'amour. Saint Thomas d'Aquin, dans un bel hymne pour l'Eucharistie, qui est la Dorothée dévotée, il le dit, seulement une goutte, en fait, aurait pu suffire pour sauver l'humanité. En fait, on aurait pu dire que même un sourire de Jésus aurait pu suffire, parce qu'il est homme-Dieu. Mais en fait, il est allé jusqu'à l'extrême.
Comment on résoudrait le problème du mal si le Christ ne l'avait pas vécu lui-même?
Oui, c'est sûr.
C'est la seule solution du fameux problème du mal.
C'est vrai.
Les auditeurs me comprennent. Quand on leur dit, est-ce que vous êtes chrétien? Ah oui, je serais bien, mais il y a le problème du mal. Ça m'arrête sur place. Eh bien, il ne faut pas s'arrêter à ça, puisque le Christ a vécu ce problème du mal. Il l'a vécu d'une manière, j'allais dire, ostensible, manifeste.
Il est devenu l'homme de douleur. Voilà, c'est lui qu'on ne reconnaît même plus, tellement il a été transfiguré par la douleur et la souffrance. Oui. Donc, c'est la seule réponse qu'on peut donner, je pense, face au
problème du mal.
Problème du mal, oui, comme en tout cas la théologie apporte cette lumière que même la philosophie peut pas apporter et qui bute totalement. Certes,
pour ça que je pense que Albert Camus se serait finalement converti si la Facel Vega qu'il ne conduisait pas, mais dans laquelle il avait trouvé place, n'avait pas commis cette embardée fatale. Mais si on veut comprendre, j'ai été voir récemment le film
L'étranger.
Qui est un film magnifique, et où le combat entre l'étranger et le prêtre en prison, à la fin, donne la clé. Il ne veut pas de sens.
Oui,
pas de sens parce que ce serait avaliser la souffrance.
Tout à fait. C'est le danger du prêtre qui veut tout expliquer par la philosophie et la théologie et mettre ça dans un syllogisme, comme si le mal était quelque chose qu'on pouvait tout simplement résoudre par une équation, et enfin il est tombé dans un discours apologétique un peu je ne sais pas, je me souviens plus exactement du texte, mais peut-être que s'il s'était contenté de lui montrer le Christ, en fait lui donner le Christ, ça aurait été différent.
C'est ça qui a marqué. Après, on n'en tire pas les conséquences, mais c'est quand même incroyable cette lutte de Jacob avec l'ange, si on peut dire.
Oui. Ça, c'est, je pense que tout à fait juste. Mais du coup, pour revenir à la question de Saint Jean, donc voilà, Jésus, sachant que son heure était venue, évidemment, le fait qu'il accepte ce dessein du Père n'enlève en rien tout ce qu'il souffre, hein, rien de sa souffrance.
Il a souffert comme personne. Je dirais que. Le supplice de la crucifixion est bien connu, et on retrouve dans le Christ un certain nombre de ces éléments, dans les souffrances du Christ, mais le Christ souffre davantage encore. L'imagination de ces tarés de bourreaux fait qu'il est cloué sur la croix. Ça,
oui,
ça n'arrive à personne.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, l'anatomie mieux connue nous montre que le clou est passé dans le poignet.
Pour tenir le poids du corps, sinon autrement. Cette technique de crucifixion. Mais oui, et ce qui est le plus impressionnant, c'est justement que au milieu de toutes ces souffrances, cette atrocité, il est entouré de haine de partout. Il n'est pas concentré sur ses propres souffrances. Il est constamment tourné vers l'autre. Et donc c'est là où on voit l'amour de Dieu qui n'est pas comme l'amour humain, qui est un amour qui dépasse toute forme humaine. Vous regardez par exemple sur le...
Mais je pense que l'amour humain peut dépasser toute forme humaine, et justement dépasser toute forme humaine dans l'offrande de soi à l'autre.
Oui, tout à fait. Mais c'est justement ce que...
Ça n'a pas une réputation très glamour, mais c'est toute la force de l'amour chrétien.
Oui, parce que si vous regardez bien sur le chemin de la croix,
de Dieu,
alors qu'il souffre atrocement, il croise Simon de Cyrène, il accepte son aide. Il croise Sainte Véronique, il accepte son aide. Il prend le temps de regarder Pierre, qui l'a trahi. Donc il est hors de lui-même. Il exhorte les femmes de Jérusalem sur le chemin de la croix. Lorsqu'il est sous la croix, en fait, c'est toute l'humanité qui regarde, même s'il ressent l'abandon du Père. Il est tourné vers les autres.
C'est très joli, ça.
Et même, il parle à sa mère, qui est en pleurs, sur le pied de la croix. Il s'adresse à Saint Jean, il promet le ciel, le paradis, le jour même, au bon larron qui se repentit. Donc, alors qu'il est absolument entouré, noyé dans la souffrance, il ne se concentre pas sur sa propre souffrance, il n'est pas paralysé par sa souffrance.
Et la souffrance de Marie s'additionne à la sienne, dans une sorte de co-rédemption. C'est très beau aussi, ça.
Ah oui.
C'est l'idée que le grand prêtre Siméon manifeste quand il dit « À toi-même, un glaive de douleur te transpercera l'âme. » Donc c'est Marie promise à participer, à partager les souffrances de son fils. Et vous voyez, cette idée de co-rédemption qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, ben on la trouve où ? On la trouve dans l'Évangile, tout simplement. Et dans la prophétie du vieillard Siméon, de façon plus particulière.
Oui, elle est totalement dans cet amour de charité, en fait. C'est le même amour. Et c'est ça que tous les textes de Saint Jean vont nous montrer. C'est que là, on a affaire à l'amour entre le Fils et le Père. L'amour trinitaire qui descend et qui peut circuler en nous aussi, par la grâce. Et qu'on peut vivre, et que Marie vit, la très sainte Vierge Marie vit à un degré extrême.
Ce jour de la Passion, elle est la seule qui comprenne quelque chose.
Ouais.
Parce que le vieillard Siméon lui a annoncé tout ça et qu'elle a bien médité dans son cœur, comme elle l'écrit elle-même dans ses deux premiers chapitres de Saint-Luc, dont nous parlions tout à l'heure.
C'est ça. Et donc finalement, tout cela nous montre, parce que juste après cette phrase, ce qu'on va voir, c'est que Jésus, bon, il apprend qu'il y a un traître parmi eux. Donc il y a Judas qui est au repas. Et juste après, en fait, il va leur donner un commandement nouveau, qui est le commandement de la charité. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » Et donc la question ici, c'est en quoi ce commandement est nouveau ? Parce qu'on a déjà le précepte de la charité fraternelle dans l'Ancien Testament, au Lévitique, et même c'est dans toute la tradition rabbinique des pharisiens. Certaines traditions, on prêchait l'amour du prochain.
Alors, je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le plus proche.
Oui.
C'est pas de droit tous les hommes.
Non, tout à fait. Oui, mais c'est la charité du prochain, enfin fraternelle. Mais en quoi c'est un commandement nouveau de Jésus ici ?
Ah ben là, je disais tout à l'heure qu'il n'était que Jésus a aimé les siens, et j'insistais sur ce mot sien, ouais. Mais en même temps... Il répute toute personne comme aimable. Pour un verre d'eau, tu as le royaume de Dieu.
Oui. Oui, c'est ça. Je pense que la nouveauté, effectivement, dans ce passage, c'est précisément dans le « comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire qu'il donne une nouvelle mesure, un nouveau motif d'aimer. C'est d'aimer comme lui, il aime. Et donc, comme vous dites, avec cette forme d'inconditionnalité, d'arriver à voir toujours chez l'autre... non pas ce qui va mal, mais les potentialités, en fait. Qu'est-ce que cette personne peut devenir, un peu comme Dieu nous regarde en fait finalement, non pas en nous accablant sur ce qui va mal, mais tout ce qu'on peut devenir et tout ce qui est, et la promesse qu'il y a en chaque personne, et c'est comme ça que Jésus regarde et nous aime, et comme ça et
ce
c'est
que
pour
vous
ça.
voulez dire, c'est que c'est à Judas qui s'adresse lorsqu'il dit le commandement nouveau
Ben,
suffit.
Judas est encore parmi eux parce qu'il va être là présent pendant le lavement des pieds et c'est juste après qu'il va partir. Alors on dit qu'il n'a pas été ordonné prêtre ni reçu l'Eucharistie le soir du Jeudi Saint, et même l'essentiel du discours des adieux, donc sous la vie des disciples dans
Mais ça, de toute façon.
le monde vous haïra, etc., et la promesse du Paraclet et la prière pour l'unité, Judas n'est plus présent parce qu'il n'aurait pas eu sa place en fait dans cette atmosphère de cordialité où il y a vraiment que les disciples qui aiment Jésus. Mais Jésus laisse, je pense, à Judas jusqu'au bout l'opportunité en fait de se repentir. Parce qu'il fait des allusions voilées dans la scène. Il ne dénonce pas explicitement devant les autres.
Non.
Saint Jean se penche sur sa poitrine, dit
Ce
le
que tu as à
texte.
faire, fais-le vite.
Voilà. Et donc certains ont pensé qu'il s'agissait d'acheter quelque chose parce que
Que tu parles.
c'est lui qui tenait la bourse, donc c'était faire les emplettes ou aller chercher je sais pas, une bouteille de vin. Mais en fait, et donc les apôtres n'ont pas compris la parole, mais en fait c'est Jésus qui est en train de lui dire, je sais ce que tu vas faire.
L'ombre de Judas plane sur le dernier repas.
C'est ça. Et donc, oui, après le texte dit, Satan est entré dans son cœur, et quand il est sorti, il faisait nuit. Il faisait nuit dans le cœur de Judas, parce qu'il avait déjà décidé dans son cœur
Il n'a
de le
pas
livrer.
saisi les perches que le Christ lui tend.
Non, et il lui tend plein de perches pendant le repas, c'est ça qui est intéressant.
Il n'a pas imaginé que la charité puisse être plus puissante que
Oui, que son péché et que
que
son
son
mal,
péché.
alors que c'est toujours le cas. Il y a toujours une voie d'issue. Dieu, on peut, je pense, nous abandonner Dieu, mais Dieu ne nous abandonne jamais. C'est ça qui...
Moi, j'ai été très frappé par M. Netanyahou récemment disant je préfère le Christ, je préfère Jean Giscan au Christ. Et c'est le choix. Alors ça peut changer dans sa vie, je le souhaite pour lui. Mais c'est le choix de Judas finalement. Je préfère Jean Giscan qui est l'empereur mongol qui a fait des centaines de milliers de morts en Asie. Je pense que l'Asie s'est jamais vraiment totalement remise des Mongols. Et le Christ, parce que le Christ n'a pas la force brutale devant laquelle tout doit plier pour Monsieur Netanyahou.
Ah oui, Jésus ne fait pas.
Ce qu'il a dit là, c'était vraiment. À la fin, il a dit et donc le bien peut être le mal, et le mal peut devenir le bien. Il suffit d'insister.
Oui, c'est ça.
Mais la trahison de Judas, c'est ça.
Oui.
On est obligé de reconnaître que Judas n'a pas saisi la perche que le Christ lui tendait.
Ah non, non, il lui a vraiment été. L'attitude de Jésus est extrêmement délicate, c'est très beau, puisqu'il ne
Mais
le.
c'est toujours une partie du problème du mal qui est traité.
Oui, c'est-à-dire que quand on vient au mal moral, au mal de faute, comme on dit,
Et
il y a la liberté qui est en jeu, donc Dieu ne nous. Comme il nous a créés libres, il ne force jamais cette liberté. Il frappe à la porte, il se tient à la porte, mais il ne va pas rentrer par effraction. Il est poli.
très jolie formule. Alors,
Donc,
vous voulez poursuivre votre texte? Vous en êtes où du chapitre
bah, en
13 de
fait,
Saint Jean?
on n'aurait pas du tout le temps de tout voir parce qu'il s'agit de 5 chapitres, tous ces moments avec les apôtres, mais peut-être qu'on peut se pencher un peu sur le lavement des pieds, qui n'est pas seulement un geste rituel d'ailleurs de Jésus, c'est pas une simple ablution ou une purification rituelle,
Non, c'est un exemple.
c'est un exemple. Oui.
Exemplum de divovis.
Et c'est pour ça qu'il le fait pendant le repas, il se lève pendant les repas, et les apôtres sont totalement, ils ne comprennent pas,
Surpris.
surpris, parce que normalement ça on le fait avant, on se lave avant le repas.
Puis c'est le serviteur qui lave les pieds.
Ah oui, et non
C'est pas le
seulement c'est le
maître.
serviteur, c'est l'esclave. Et à l'époque même, les écrits rabbiniques disent que les esclaves juifs, ils étaient exemptés de cette tâche et on la réservait aux esclaves païens. Et donc, par exemple, quand ils se ceint d'un linge autour de la ceinture, par exemple, si je vous dis aujourd'hui une personne avec une serviette sur le bras, pensez tout de suite à un serveur de restaurant.
Oui.
Ouais. À l'époque, quelqu'un qui a un linge ceint au niveau de la ceinture, c'est un esclave. on le perçoit tout de
Ouais,
suite.
bah, il s'occupe des pieds des gens.
Oui,
Il suffit
exactement.
à le qualifier comme.
Par exemple, quand Abraham a reçu les trois visiteurs, il envoie quelqu'un chercher de l'eau et il se lave les pieds. Même Joseph d'Égypte, il n'a pas lavé les pieds de ses frères. Oui.
Et donc le Christ lave les pieds de ses apôtres
Oui.
en signe d'humilité, finalement.
En signe d'humilité, c'est le résumé même de toute sa vie, en fait, de son incarnation, où il prend la condition d'esclave jusqu'à porter la croix sur les épaules. Et en fait, il veut leur arracher aux apôtres en fait, ce vice qui est le plus difficile à arracher chez nous tous, qui est celui de l'orgueil. Voilà. Et donc, lui qui est maître et seigneur, il l'assume, il sait que son heure est venue. L'humilité, je ne pense pas que c'est une sorte de misérabilisme ou de
Voilà, vous
défaitisme.
m'appelez maître et seigneur
Oui.
et vous avez raison car je le suis.
C'est ça.
Ça, c'est extraordinaire.
Il n'est pas dans une sorte
C'est pas le
d'humilité.
petit Jésus
Oui.
humble.
Oui, ou une humilité sans aucune colonne
L'humilité est elle-même
vertébrale.
une force, en fait.
Oui, c'est une force. Voilà. Le christianisme, c'est une
C'est
vraie
dans
force.
le judo spirituel.
Oui, voilà. C'est
On nous
pas.
introduit au judo spirituel. Je ne
C'est
sais pas
ça.
si vous êtes.
Non, et Jésus fait une preuve de force pendant toute sa vie qui est absolument incroyable. Il tient tête à des oppositeurs. Il parle avec force, avec éloquence, avec autorité. C'est sûr que pendant la Passion, il y a les deux choses. Pendant la Passion, on le voit plus comme un agneau qui est mené à l'abattoir, parce qu'il veut enseigner autre chose. Mais il fait aussi preuve d'une force par moment. La
Le Christ s'est fait
façon.
obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, dit
C'est
saint
ça.
Paul, qui a tout
Et
compris.
oui. Et donc c'est un abaissement, c'est-à-dire celui qui est très grand, il doit s'abaisser encore plus en fait. C'est ce qu'il nous montre, comme dit le livre de la sagesse ou le Siracide, si je ne me souviens plus. Celui qui est très grand doit s'abaisser
Ça, je ne connaissais pas cette phrase.
encore plus, parce que oui, bah, plus vous êtes grand, plus l'abaissement
Je la vis.
est grand. Et donc, oui, c'est un exemple, effectivement. C'est un exemple. C'est pas juste un geste rituel. Et c'est très beau, je peux lire peut-être le passage de l'Évangile, parce que on sent dans la manière dont c'est écrit que ça a marqué Saint Jean à vie, il s'en rappelle chaque détail de ce geste de Jésus. Parce que voici comment le texte est tourné. Oui. Il se leva de table, posa ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous voyez tous ces verbes au présent, oui, ou au passé simple. Il se leva de table. Il se rappelle chaque détail. Il se lève de table, il
Oui.
pose les vêtements, il
C'est une
prend
scène
un
quasi
linge.
cinématographique, on dirait.
Voilà, c'est ça. Tout est écrit. Les moindres détails, ça veut dire que c'est. Ils étaient, je pense, stupéfaits de ce qui est en train de se passer et voir leur maître qui faisait des miracles, qui guérissait, qui leur avait tout appris, en fait, poser un geste qui était réservé aux esclaves païens. Et à tel point que Pierre est complètement scandalisé. Il dit, vous, Seigneur, vous me lavez les pieds. Ouais. Jésus répond, tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras plus tard. Et Pierre lui dit, jamais vous ne me laverez les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et là, Pierre, il dit, c'est vraiment Saint-Pierre, dans toute
Dans ses œuvres.
avec son caractère, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Voilà. Et Jésus lui dit, celui qui a été lavé n'a besoin que de laver ses pieds, et il est entièrement pur. Vous aussi, vous êtes purs, non, mais non pas tous, car il savait celui qui le trahirait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc voilà, encore une allusion
Et la
voilée.
tradition a fait beaucoup de place à Judas dans le récit de la Passion. Aujourd'hui, on ne veut pas trop en entendre parler parce que. On ne comprend pas que Judas ait été condamné. Mais si on veut affronter le problème du mal de façon objective, le personnage de Judas se présente évidemment dans toute son importance,
Ah, ben même
comme
l'évangile
celui
selon
qui
Saint Jean.
refuse le Christ,
L'évangile selon Saint Jean devient très
qui
embêtant.
refuse le Christ avec passion,
Ben oui,
un peu
mais.
comme Netanyahou refuse le Christ en invoquant Jean Giscan. C'est quand même, il faut le
Oui.
faire.
Mais c'est
Et
tous les.
pas dans une sous-littérature,
Oui.
mais dans une conférence de presse officielle.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de tomber dans un optimisme complètement béat par rapport au monde, en fait. Et sinon, c'est tout l'évangile selon saint Jean qu'il faut évacuer, parce qu'il dit très clairement. Alors, il y a bien sûr le monde comme création, comme cosmos, qui est très beau, et c'est pas ici dont il est question. Mais le monde qui est sous le pouvoir de Satan, il n'est pas possible, voilà, il n'y a pas de conciliation possible entre le Christ et le démon, en fait, et Satan.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Éric Choprade, je suis heureux de vous accueillir et d'autant plus heureux que votre passage est impromptu, peut-on dire. Vous avez donné tout récemment un entretien de géopolitologue, du géopolitologue que vous êtes et que vous êtes depuis toujours, on peut dire, contrairement aux géopolitologues de plateau qui se découvrent une vocation tardive. Vous n'êtes pas une vocation tardive, vous êtes un géopolitologue d'origine. Et je vous ai proposé de venir ce soir sans savoir si vous preniez la perche que je vous tendais, et vous voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez des géopolitologues de plateau, déjà?
Alors, écoutez,
je ne cite aucun nom.
Ne citons pas de nom, c'est pas la peine de blesser des gens inutilement. Tout d'abord, je dois vous dire, monsieur l'abbé, quelle joie pour moi de vous retrouver. C'est effectivement, ça s'est fait de manière impromptue. On s'est appelé, et puis vous m'avez dit qu'il y avait cette. Moi, j'étais de passage à Paris, et je suis très heureux d'être avec vous pour converser de géopolitique. Alors, la matière géopolitique, pendant très longtemps, elle a eu un parfum de scandale, parce que elle avait en particulier dans son, pour employer un terme à la mode, dans son ADN, elle avait les géopolitiqueurs allemands, des gens comme Friedrich Ratzel, comme Karl Haushofer, qui étaient en fait un peu les inspirateurs du pan-germanisme et de la justification de l'espace vital dans les années, à la fin des années du 19e siècle. Voilà. Oui, exactement. C'est eux, avant les nationaux-socialistes vont reprendre ça. Mais ça, c'était la partie allemande. Mais comme le mot géopolitique avait été récupéré par les Allemands, cette méfiance, en particulier en France et dans l'école de géographie dite politique, où on insistait bien sur la distinction géographie-politique. On ne disait pas géopolitique pendant très longtemps. Des gens comme Jacques Ancel, etc., qui, de mon point de vue, étaient des vrais géopolitologues, utilisaient le terme plutôt de géographie politique. Mais il y avait aussi l'école anglo-saxonne, dont on reparlera pour analyser la géopolitique mondiale d'aujourd'hui, des gens comme Alfred Mackinder, qui ont popularisé les théories de le Heartland, c'est-à-dire le cœur continental du monde encerclé par le Rimland, etc. Et donc tout ça, c'est en fait... C'est une matière assez dont les origines se situent à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui était une lecture assez déterministe de l'histoire, à partir des déterminants géographiques de la géographie physique.
Très matérielle.
Voilà, très matérielle, de la géographie physique, de la géographie des populations ou géographie identitaire, et de la géographie des ressources. Donc trois types de géographie, de facteurs, souvent des facteurs de temps long, qui fondait cette discipline. Donc la géopolitique ne peut pas prétendre à elle seule expliquer l'histoire. L'histoire des hommes est complexe, elle ne peut pas s'enfermer dans la géopolitique, mais elle est une des clés d'explication. Elle permet d'expliquer beaucoup de choses dans les relations internationales en particulier, mais elle ne prend pas nécessairement en compte dans sa définition même, par exemple, le rôle des grands hommes qui émergent dans l'histoire ou qui vont jouer des rôles essentiels sur l'histoire des peuples. Ça, c'est l'histoire avec un grand H. Et je dirais que la géopolitique n'est qu'un compartiment de l'histoire. Voilà.
Alors, c'est un compartiment de l'histoire ou c'est l'histoire qui est un compartiment de la géopolitique ?
Non, c'est vraiment la géopolitique. C'est pour ça que moi, je travaille sur la géopolitique depuis longtemps, en effet. Vous aviez raison de le rappeler, monsieur l'abbé, mais j'ai quand même conscience des limites de cette matière, qui reste une matière quand même très enfermée sur des facteurs explicatifs déterministes liés à la géographie, fondamentalement. Alors ensuite, pour comprendre par exemple un conflit, une fois qu'on a fait une bonne lecture géopolitique, on peut y ajouter des facteurs plus stratégiques, comme par exemple les dispositifs militaires, diplomatiques des États qui ne sont pas stricto sensu.
Les dispositifs religieux, alors, parce que finalement, ces peuples qui sont en lutte, le peuple iranien,
oui,
le peuple israélien et le peuple américain, ont en commun d'être des peuples très religieux.
Exactement. Alors ça, le facteur religieux...
Vous vous en occupez de ça ?
Bien sûr, le facteur religieux, dans mon ouvrage « Géopolitique, constante et changement dans l'histoire », qui justement recense, disons, l'ensemble des facteurs explicatifs de la géopolitique, le facteur religieux est abordé dans sa dimension un peu temporelle d'identité. À l'intérieur de la géographie des populations, il y a la géographie donc de l'identité, l'identité ethnique, l'identité religieuse et civilisationnelle, la civilisation étant au fond une matrice essentielle hein, des peuples. Et bien sûr, en tout cas dans ma géopolitique, dans ma vision...
La civilisation est une matrice des peuples pour les Français, mais pour les Allemands, c'est la culture, non ?
C'est la culture, oui, mais...
Alors, quelle différence vous faites entre ces deux peuples ? Alors, et leur géopolitique.
Effectivement, là après on rentre dans la définition des nations qui sont soit une vision plus ethnique pour l'Allemagne, plus...
Ça nous évite de faire un discours trop abstrait sur la géopolitique. Prendre cet exemple,
oui.
Les Allemands ne cherchent pas la même chose ou le même type d'excellence que les Français.
C'est tout le problème des sciences humaines. On ne met pas les mêmes choses derrière les mots. On n'utilise pas nécessairement les mêmes mots. Mais ce que je veux dire, c'est que le facteur religieux, il est abordé dans la géopolitique et comment ne pas l'aborder ? Il est bien sûr essentiel pour comprendre notamment une partie des conflits, mais pas seulement. Il est abordé. Moi, j'ai toujours eu une géopolitique que j'ai voulu multi... le terme est un peu ronflant, multicausal, c'est-à-dire qui prend en compte, qui ne réduit pas un conflit.
Je me souviens, à l'époque, vous insistiez
beaucoup. Voilà, j'insiste sur ça. Il n'y a jamais une cause unique.
Désidéologise évidemment le terrain.
Voilà, ça désidéologise. Bon, les marxistes aimaient bien la cause unique, la lutte des classes, ou les libéraux d'ailleurs, finalement, le pur facteur économique. Mais au fond, c'est une lecture, je pense, c'est une forme d'humilité devant l'histoire, car l'histoire est compliquée. Chaque situation est une combinaison originale de facteurs. Et pour ce qui est de la géopolitique, c'est une combinaison de facteurs géographiques, de géographie physique, de géographie identitaire, de géographie des ressources. Et ça, c'est vraiment la définition de la matière. Alors maintenant, comme vous allez m'interroger, monsieur l'abbé, au cours de notre discussion aussi sur sans doute le Moyen-Orient, l'Iran, forcément, je ferai un peu plus que de la géopolitique. J'ajouterai des facteurs d'explication de nature plus politique ou économique, si on parle des conséquences.
Mais il n'y a pas de chauvinisme géopolitique, en fait.
Non, et puis il faut...
Géopoliticiens. Ils peuvent élargir leur perspective.
On doit pouvoir élargir. En fait, il faut surtout rester modeste face à la complexité des choses et la multiplicité des causes et se dire qu'on essaie d'avoir une sorte de modélisation pour chaque situation la plus proche possible de la réalité en prenant en compte le maximum de facteurs explicatifs. Voilà, c'est ça l'idée. Et à l'intérieur de ces facteurs explicatifs, évidemment, quand on est géopolitologue ou géopoliticien, les termes peuvent être différents. Alors maintenant, on dit plus géopolitologue parce qu'on se méfie tellement des politiciens que le mot résonne mal. Donc, politologue, ça fait plus sérieux. Ça fait plus... Voilà.
Il y a quand même... diagnostic qui est partagé par toutes les couleurs de géopoliticiens ou de géopolitologues, c'est que la guerre est à nos portes, qu'elle arrive.
Oui, oui, malheureusement, je pense...
Il n'y a pas de raison que nous soyons dispensés indéfiniment de la guerre.
Je pense qu'elle est à la porte. Et la tragédie de l'histoire, c'est que souvent, elle est déjà chez nous, en nous, alors qu'on ne la vit pas encore explicitement comme une guerre. La guerre 14, sans doute, personne ne s'attendait à cette déflagration. Quand on relit Quand on relit les mémoires des principaux ministres des Affaires étrangères ou de la guerre de l'époque, personne en juin 1914 ne s'attendait à cela, tout allait bien. Et personne n'avait vu l'engrenage, les mécanismes.
C'est les Bosniaques qui ont foutu la merde.
Oui, oui, exactement, pour résumer. Mais surtout, surtout, c'est le mot engrenage, c'est-à-dire le mécanisme de A qui implique B, qui implique C, et qui est terriblement diabolique. Parce que en fait, on ne sait pas, et sans doute Trump et Netanyahou, alors peut-être savent-ils eux. Sont-ils diaboliques? Ça, c'est une question. Savent-ils, eux, dans quel engrenage ils ont mis la main? Mais en tout cas, ils ont mis le monde, ils nous ont plongé dans un engrenage qui est en train de...
Je dirais, comme disent les enfants dans la cour de récré, il s'est cru le plus fort. Ils sont crus les plus forts. Et finalement, ils sont en train de découvrir qu'ils dirigent pas tout.
Oui, absolument. Alors d'ailleurs, c'est... Moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, au-delà de la géopolitique, c'est la philosophie de l'histoire. Et c'est ça que je trouve passionnant. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester humble. La géopolitique n'explique pas tout. Mais par contre, faire l'impasse sur la géopolitique, c'est faire l'impasse sur une forme de réalité qui nous reviendra toujours dans la figure. Mais elle n'explique pas tout, parce que vous venez de parler de quelque chose qui est l'ego, finalement. Et l'ego, c'est un grand facteur explicatif dans l'histoire. Une grande partie des problèmes, c'est l'orgueil, finalement. L'orgueil, si on veut aller sur le champ plus religieux, c'est le péché d'orgueil, en fin de compte. Et celui-là, il est quand même très, 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 très fort pour nous mettre dans des situations historiques tragiques.
Vous avez raison de souligner que la guerre de 14, personne ne s'y attendait à ce point-là, en tout cas. On s'attendait peut-être à une petite guerre de l'Autriche-Hongrie vis-à-vis de ces dominions secondaires.
Exactement.
Mais on ne s'attendait pas à ce que tout le monde prenne parti brusquement et que l'Europe s'enflamme.
Ce sont les mécanismes d'engrenage dont je vais parler expliciter un peu la géopolitique américaine, israélienne. Mais je veux juste insister sur un point, monsieur Labbé, parce que moi, ça me tient à cœur de plus en plus, ayant lu les livres de René Girard, par exemple, sur les phénomènes de mimétisme, de montée aux extrêmes. C'est très, très intéressant de comprendre aussi que la nature humaine, eh bien, se retrouve dans le champ de l'histoire, dans le choc des peuples, et que le péché d'orgueil qu'on va voir là, parce que là, la question, c'est de savoir, puisque les États-Unis n'y arrive pas face à l'Iran, la question de l'orgueil, elle va être posée. C'est à quel moment vont-ils décider ou ne pas décider d'arrêter s'ils n'y arrivent pas. C'est là, on est vraiment dans la question de l'orgueil. C'est ne pas perdre la face, c'est la question de l'orgueil. Voilà. Et ça, c'est pas directement de la géopolitique au sens classique du terme. C'est, je dirais, l'analyse de l'histoire dans sa complexité humaine.
C'est la philosophie de l'histoire.
C'est la philosophie de l'histoire, véritablement.
C'est quelque chose qui tenait beaucoup à cœur de René Girard.
Oui, absolument. Voilà. Et moi, ça me passionne aussi très modestement. Et les phénomènes de mimétisme, hein, de monter aux extrêmes. Donc ça, c'est l'homme, entre guillemets, animal mimétique. Ce qui a été d'ailleurs prouvé a posteriori par les neurosciences.
Je ne sais pas pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte avant de vous entendre. C'est que c'est bien de mimétisme qu'il s'agit entre les différents pratiquants de la guerre.
Bien sûr. C'est exactement ça, et donc c'est pour ça que ça, c'est une explication très intéressante, et je le disais, qui est abondée aujourd'hui par les découvertes dans les neurosciences sur les fameux neurones miroirs. Donc l'intuition de René Girard, qui était une intuition littéraire, alors c'est dans la littérature qu'il a été cherché la question du bouc émissaire, la question du mimétisme dans la guerre, etc. Toutes ces intuitions, il les a fait sortir de la littérature. Elles n'étaient pas encore démontrées sur le plan des sciences naturelles et des sciences exactes, dites exactes, et aujourd'hui elles sont de plus en plus corroborées. Enfin voilà, tout ça pour dire que restons humble parce que la complexité de l'histoire, c'est beaucoup de facteurs explicatifs, même si à un moment donné, il y a quand même des gens ou des petits groupes de gens qui sont les moteurs de l'histoire, qui prennent des décisions qui impliquent tout le monde, qui ont des conséquences incalculées et incalculables. Et on le voit aujourd'hui avec des conséquences dont on parlera, qui peuvent être économiques, géopolitiques, etc.
Oui. Alors, comment cette guerre a commencé? On peut dire qu'elle a commencé en Ukraine, d'une certaine façon.
Alors, pour
la guerre au Proche-Orient.
Oui, moi, je dirais qu'elle a commencé même à la fin de la décomposition, de l'explosion de l'Empire soviétique, lorsque des gens comme Francis Fukuyama, en 1990, publie un livre nous expliquant que c'était la fin de l'histoire et que le libéralisme allait s'imposer au monde entier, que la mondialisation américaine et occidentale allait s'étendre et que le monde deviendrait un monde de paix fondé sur le commerce, le libre-échange, l'individualisme,
la Pax Americana,
l'individualisme anglo-saxon. Et la fin de l'histoire, c'était au fond que les peuples qui prétendaient vouloir encore avoir une histoire, une identité, devaient s'effacer devant tout ça, et que le grand mouvement, c'était ça. Sauf que ça s'est évidemment pas passé comme ça, et que à partir du moment où on est sorti de la bipolarité, stricto sensu, l'affrontement entre les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre avec leurs alliés, pour simplifier, c'était un peu plus compliqué, la Chine était déjà à part. Les Américains ont voulu garder cette prééminence, cette primauté sur la mondialisation des sens occidental, mais en face des peuples émergents. En train d'émerger, on commençait à défendre une idée de multipolarité. L'idée que le monde devait être multipolaire, qu'il n'y avait pas de raison qu'on reste dans cette dynamique de l'histoire dominée par les États-Unis. Et donc, petit à petit, une compétition s'est installée. Et quand on lit les stratèges américains, à partir des années 90, assez rapidement, on s'aperçoit que la Chine devient la préoccupation première. Pourquoi ? Parce que ces gens constatent que le seul pays qui a le réservoir démographique suffisant, la croissance à deux chiffres, etc., depuis Deng Xiaoping, le pays est en plein développement, le seul pays qui peut ravir aux États-Unis sa place de numéro un mondial, c'est la Chine. Et donc, assez rapidement, une stratégie, si on fait un peu la synthèse de la pensée géopolitique américaine qui se déploie dans les années 90 et 2000, c'est une pensée qui est centrée sur la menace chinoise. C'est très très intéressant. Alors, c'est la menace chinoise qui, je vais en parler, n'exclut évidemment pas la Russie, mais qui met au centre la question de la Chine qu'il faut contenir dans son ascension. Donc va se mettre en place une stratégie américaine qui consiste premièrement à veiller à ce que l'Europe ne devienne pas indépendante,
reste vassalisée,
et la construction européenne qui était vendue entre guillemets au peuple qui votait dans les différentes étapes de la construction, les traités, etc., en 86, et puis après traité de Maastricht, etc. Qu'est-ce qu'on vendait au peuple, entre guillemets? On leur vendait l'Europe puissance. On leur disait, mais déshabillons-nous de nos souverainetés nationales qui sont dépassées, qui sont anciennes, pour construire une sorte d'Europe puissance qui sera un pôle fort.
Pour vous, tout converge, finalement.
Exactement.
On est parti du Proche-Orient, et là, on est en pleine Europe. Mais c'est le même mouvement.
Oui, on va arriver au Proche-Orient. Alors, il a déjà son histoire, bien sûr. Hein, ce n'est pas linéaire, mais les choses sont concomitantes. Mais ce que je veux dire, c'est que la stratégie globale des États-Unis pour rester le leader mondial consiste d'abord à maintenir sa main sur l'Europe, à la vassaliser, à étendre l'OTAN. C'est ce qui va se passer, puisque l'OTAN par vagues successives... prendre les nations d'Europe centrale, d'Europe orientale, jusqu'à l'Ukraine, jusqu'à vouloir ou prétendre faire entrer l'Ukraine. Sauf que vous vous souvenez, ce géopolitologue américain, Zbigniew Brzezinski, juif polonais, donc potentiellement de bonnes raisons de ne pas aimer la Russie tsariste ou post-tsariste.
Il paye des pogroms, il paye...
Exactement. Écrit un ouvrage assez remarquable, d'ailleurs, en 1997, qui s'appelle The Great Chessboard, donc le grand échiquier, dans lequel il dit que, notamment, il dit beaucoup de choses, mais il dit que l'Ukraine, c'est le pivot par lequel, le pivot essentiel qui permettra aux États-Unis de détruire la puissance russe. Si les États-Unis font rentrer l'Ukraine dans la sphère d'influence atlantique, alors la Russie est refoulée, amoindrie sur le plan de la puissance. Il l'écrit explicitement dès 1997. Donc on voit que...
Et ce sont les motifs qui ont suffi au président russe pour envoyer la sauce.
Oui, alors il y a plusieurs épisodes. Il y a la promesse en 1990 que l'OTAN, la promesse faite par James Baker aux Russes, que l'OTAN cessera son expansion, qu'il respectera la sphère d'influence russe proche, les pays baltes, l'Ukraine, etc., et que l'expansion s'arrêtera. Et puis, les Russes...
Donc les Russes l'avaient accepté.
Oui, bien sûr, les Russes...
Poutine,
avant Poutine. Poutine arrive en 1999. Et Poutine, quand il arrive, il n'est pas spécialement anti-américain. C'est le premier chef d'État qui, après le 11 septembre 2001, prend son téléphone, appelle George Bush, W. Bush, et lui propose une forme d'alliance entre la Russie et les États-Unis, faisant que la Russie remplacerait l'Arabie Saoudite comme principal fournisseur de pétrole, et que, mais en revanche, la Russie restait un pays indépendant et elle pouvait devenir. Donc il est plutôt tourné au départ vers l'Ouest. Et que va recevoir Poutine en retour ? Les révolutions colorées du tout début des années 2000. Là, on est à son arrivée au début des années 2000. Vous avez 2003, la Géorgie, révolution colorée. Vous avez 2004, la première révolution colorée en Ukraine. Et toutes ces révolutions dites colorées, révolution orange, etc., sont des révolutions dont le but est simplement d'évincer des gouvernements qui avaient un tropisme pro-russe ou qui était encore attaché à ce lien avec la Russie, bien qu'étant des gouvernements de pays devenus indépendants, pour les remplacer par des gouvernements explicitement pro-OTAN et favorables à l'adhésion dans l'OTAN. Le régime change qui est plus vaste que la question des révolutions colorées, mais qui s'applique en effet sur la question des révolutions colorées. Donc le premier volet de cette grande stratégie américaine, si vous voulez, consiste à étendre un grand bloc transatlantique jusqu'aux portes de la Russie pour affaiblir la Russie, jusqu'au moment, je passe des étapes, jusqu'au moment où en 2022, Poutine, pour X ou Y raison, considère que la ligne rouge est franchie, que des avertissements ont été donnés et que... Il ne peut pas laisser l'Ukraine dans son ensemble basculer du côté de l'Ouest, parce que c'est vrai que l'Ukraine est une construction, pour le coup, géopolitique assez récente, mais qui est une sorte de synthèse de forces contradictoires. Il y a une Ukraine du centre et de l'Ouest qui, historiquement, regarde vers nous, vers l'Ouest. Une partie est une ancienne partie de l'Empire austro-hongrois. Il y a une Ukraine de l'Est...
Ça se traduit dans la liturgie, puisque ce sont des catholiques romains aussi.
C'est très juste, oui. Et les catholiques romains, les uniates, qui sont au fond des orthodoxes qui sont tournés plutôt vers l'ouest, et au centre, il y a une sorte de géographie religieuse très, très cohérente. L'ouest catholique, le centre uniate et l'est orthodoxe russe. Et le Donbass... Le Donbass, il est russe. Ce sont éthiquement des Russes.
Oui, les cavaliers du Don.
Voilà. Donc, et puis la Crimée aussi. Donc voilà. À ce moment-là, la Russie estime que la seule, c'est sa réponse, la seule réponse possible est la partition ou en tout cas une forme de protectorat, pour employer un mot qu'on a utilisé nous pendant un certain temps pour d'autres populations, une sorte de protectorat russe sur les populations russophones. Et ça, c'est l'origine de la guerre. Et puis, le piège américain se referme sur nous, car nous, les Européens de l'Ouest et du Centre, puisque nous suivons les Américains, nous allons nous engouffrer dans cette politique qui vise à nous couper totalement de la Russie et donc à nous couper de l'énergie russe peu coûteuse, le gaz en particulier. Et c'est, ça n'est pas anodin aujourd'hui parce qu'on va voir à quel point ceci ajouté à cela, cela étant le Moyen-Orient, eh bien on se retrouve dans une difficulté, on va avoir des difficultés très importantes sur le plan économique à cause de la raréfaction de l'énergie.
Et c'est une politique qui est vraiment internationale. C'est peut-être là la différence entre hier, quand vous avez commencé à faire de la géopolitique, et aujourd'hui, où la géopolitique est la science de tout le monde, finalement.
Oui,
parce
alors...
que les enjeux sont internationaux à oui. travers le prix du pétrole, le prix du gaz.
Absolument. Alors, c'est vrai que j'essaie de voir aussi, parfois, même s'il y a beaucoup de bêtises sur les chaînes d'information, des fois, je me dis quand même que le côté positif, c'est qu'on reparle un peu de géographie, qu'on montre des cartes, que les gens se remettent à regarder. Je voyais avant-hier des cartes avec les matières premières. On explique l'hélium, à quoi sert l'hélium pour les IRM, etc. Nous allons manquer d'hélium. On explique que dans le Golfe, il y a des unités de production très importantes d'aluminium. Donc, je dirais que l'auditeur moyen de BFM ou de LCI ne sait pas forcément ça. Le point positif, c'est que ces terribles conflits amènent quand même à regarder un petit peu, à mieux connaître la géographie, à s'intéresser à un certain nombre de facteurs, au système politique, etc. Même si beaucoup de bêtises sont dites, et même si, oui, étrangement, vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent géopolitologues, mais qui n'ont jamais travaillé ni écrit sur la matière. Donc il faut quand même avoir travaillé un peu, fait de l'histoire, de la géographie, pendant un certain temps, avant de pouvoir, de mon point de vue, formuler des analyses pertinentes.
Et c'est comme si la politique nationale était, elle, complètement marginalisée, complètement moins intéressante. Il suffit que Trump ouvre la bouche pour qu'on lui donne toutes les caméras possibles. Et d'un autre côté, si notre Premier ministre a quelque chose à dire sur les impositions des Français, ce qui est quand même normalement pas rien, ça passe à la trappe.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, mais ça, je dirais que c'est...
En tout cas, sur ces chaînes d'infos.
C'est la dimension spectacle. C'est-à-dire que Trump est un magnifique client. Il produit de la polémique, des phrases extrêmement violentes et brutales. Et donc, il y a du spectacle en permanence, avec des retournements de situation, puisque effectivement, il dit blanc un jour, noir un autre. Donc, évidemment, c'est magnifique pour les chaînes d'information. Le côté pâle... Sans aucun éclat de nos politiques actuelles par ailleurs, fait qu'ils ne sont pas des bons, très bons clients pour les chaînes d'information à donner en pâture au public.
Oui, c'est ça.
Mais on peut revenir, si vous voulez, à la partie géopolitique. Donc, on a eu cet épisode qui a débuté en 2022 de l'Ukraine, qui n'est pas terminé. Et on en arrive à la question du Moyen-Orient, d'une guerre qui a été décidée qui a été voulue, de mon point de vue, donc une guerre contre l'Iran par Netanyahou, par les Israéliens.
Oui, parce que sans ça, on se demande ce que l'Iran vient faire dans cette galère. Enfin, si c'est évidemment en Israël que ça se joue.
C'est en Israël que ça se joue, même s'il y a une dimension quand même de l'Iran dans la géopolitique américaine, c'est que dans le volet que j'évoquais, pour employer le terme de la géopolitique classée, du containment, pour reprendre un terme de la guerre froide, mais du nouveau containment, de l'endiguement, pour prendre le terme français, de la Chine, il y a la volonté de la part des États-Unis, depuis des années, depuis des décennies même, de contrôler la consommation énergétique de la Chine. C'est-à-dire que les États-Unis sont eux-mêmes une puissance productrice de pétrole et de gaz. Donc leur intérêt à contrôler les zones de production, des réserves et des zones de production pétrolière et gazière, ça n'est pas tant pour leur propre consommation que pour contrôler la dépendance de leur principal adversaire, qui est la Chine. Et donc quand ils sont attaqués au nationalisme ou au souverainisme pétrolier et gazier, qu'était l'Irak, puis la Libye et aujourd'hui l'Iran, c'est-à-dire des pays qui fondent une partie aussi de leur souveraineté sur leur politique d'exportation pétrolière et gazière et qui ne s'étaient pas conformés à la géopolitique américaine, le fait d'abattre ces régimes et de vouloir les contrôler, c'est aussi contrôler la dépendance de la Chine vis-à-vis de ses ressources. Donc ça s'inscrit
dans la stratégie purement américaine.
Ça, c'est la stratégie américaine, même si Israël a aussi une stratégie énergétique. Hein. Aujourd'hui, elle peut profiter, par exemple, des oléoducs d'exportation, de substitution au détroit d'Ormuz qui vont partir d'Arabie Saoudite et aller vers la Méditerranée. Donc, elle a aussi sa dimension. Mais je dirais que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs explicatifs. Si on veut simplifier les choses, le principal, de mon point de vue, le principal facteur d'explication de la guerre, c'est le moteur israélien. Israël veut le Eretz Israël, et là, c'est une dimension là, religieuse, c'est une dimension messianique. Le grand Israël, c'est-à-dire détruire, c'est la destruction créatrice, pour employer un terme qui, à mon avis, est assez explicite, c'est-à-dire tout casser les frontières, créer le chaos pour faire le grand Israël. On le voit déjà au Liban, avec une volonté d'annexer.
Le Liban qui, au départ, n'était pas dans cette guerre.
Qui n'était pas dans cette guerre, mais Israël profite du prétexte qu'il faut abaisser le Hezbollah, le détruire, pour détruire des villages libanais intégralement, les détruire, les raser, c'est-à-dire préparer la future colonisation par les juifs israéliens de la terre libanaise. Donc là, on est dans un déni des frontières.
D'extrême droite
ne s'en cache pas. Cette fois-ci, on est effectivement avant. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y avait un phénomène de colonisation. Il n'est pas nouveau. Il précède Netanyahou. Mais ce qui est nouveau, c'est l'amplification et la revendication. C'est-à-dire que ça n'est plus caché, c'est explicite. On fait Eretz Israël, peut-être même on va reconstruire le temple. Tout est possible. On est maintenant dans l'accomplissement d'un agenda qui est un agenda messianique, voire apocalyptique. Et les chrétiens sionistes aux États-Unis applaudissent à deux mains parce qu'eux, ils se disent, eux qui in fine veulent quand même convertir les juifs, se disent, bon, ça, tout ça va accélérer le retour du Christ dans leur vision, comment dire, qui est dans leur vision qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas catholique, qui est apocalyptique et qui est une forme de religion de l'attente, en fait. De ce point de vue, elle se rapproche un peu du schisme, qui est la religion du schisme. Dieu des six mains, c'est le dixième imam occulté, donc l'imam qui a disparu, dont on attend aussi le retour. Donc c'est très intéressant de voir là que ce sont au fond en ce moment des religions de l'attente qui s'affrontent, des religions qui ont une dimension une eschatologie de l'attente. Je parle sous votre contrôle sur le plan religieux, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est comme ça que je perçois les choses sur le plan religieux.
Fortement idéologisé, pour reprendre un mot qu'on connaît peut-être davantage maintenant.
Exactement.
C'est l'idéologie qui attend monts et merveilles et qui n'obtient rien.
Exactement. Et alors, donc, pour revenir à Israël, aujourd'hui, est dans une politique d'effacement d'autrui qui est assumée depuis Gaza. On efface complètement avec une déshumanisation de l'adversaire. On le voit puisqu'ils viennent quand même de voter en sablant le champagne pour le ministre Gvir, de voter la peine de mort ethnique ciblée. Ce qui n'existe dans aucun pays, parce que le principe de la peine de mort, il peut être admis dans des pays par rapport à des actes commis, quelle que soit l'origine de la personne. Là, c'est véritablement une peine de mort ciblée sur les Palestiniens. Donc, c'est quand même très particulier. Alors, donc, cet État d'Israël voulait abattre le régime iranien. Pour moi, le nucléaire est un prétexte. Le nucléaire dont tout le monde parle, c'est un prétexte parce que ça fait plus de 30 ans qu'Israël raconte que l'Iran est à deux doigts d'avoir la bombe. Je rappelle que c'est pas la première fois. Il y a eu de nombreux épisodes de crise, de bombardements. dans lesquelles Israël a expliqué que l'Iran était à deux doigts.
Mais alors, en ce moment, Trump veut arrêter la guerre, apparemment. Mais est-ce que le risque ne vient pas de Netanyahou ? Est-ce que finalement, pour courir ce risque, il serait prêt à utiliser l'arme atomique ?
Alors, avant, si vous le permettez, monsieur l'abbé, avant d'arriver aux prédictions, peut-être essayons de nous concentrer sur les causes. Parce que je vous en prie, mais je veux simplement, parce que j'essaie, je m'interroge moi-même, mais pour moi, la cause. Pourquoi Trump, qui a été élu quand même sur un programme qui n'était pas un programme belliciste ?
C'était l'inverse.
C'était l'inverse. Sa base, MAGA, ne voulait pas les guerres de l'État profond. Exécrait. Voilà,
perdu
exactement. Exécrait cette oligarchie, si vous voulez, le paysan du milieu de l'Ouest et l'Américain enraciné. Il voulait sortir de ça. Il avait conscience que beaucoup d'Américains s'étaient fait tuer pour des oligarchies qui ne défendaient pas nécessairement l'intérêt américain. Et pourquoi tout d'un coup est-il sorti de ça contre sa base, puisque des influenceurs aussi importants que Tucker Carlson, etc., ont commencé à s'éloigner, se sont éloignés même de notre... Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication que le fait qu'il ait cédé aux sirènes d'Israël, et au lobbying d'Israël autour de lui, dans son entourage proche, et peut-être même, mais ça, j'ai absolument pas de preuve, ce n'est que de la spéculation, peut-être même est-il compromis dans l'affaire Epstein, comme un certain nombre de gens, puisque je rappelle que l'origine même de l'affaire Epstein, c'est un compromat, c'est-à-dire c'est une opération essentiellement montée par le Mossad, mais financée par des milliardaires américains puissants qui ont financé Epstein et son île démoniaque. Voilà. Tout ça était financé, c'était ce qu'on appelle en langage du renseignement classique un pot de miel, quoi. C'est-à-dire qu'on on va confondre les gens sur leurs vices, prendre des photos, faire des tonnes de mails, donc laisser 3 millions de traces de documentation, puisque tout est écrit, puisqu'on pousse les gens plus à écrire, on prend des photos, des vidéos. Donc il y a un nombre impressionnant de gens qui sont tombés sur leur vice, décideurs politiques, décideurs économiques. Et à l'époque, sans doute, bien avant, M. Trump a-t-il fait des choses avec des filles un peu trop jeunes et voilà, donc ça c'est une explication, je n'ai absolument pas de preuve, mais je regarde moi la concomitance des agendas. Le retour de l'affaire Epstein correspond à l'agenda de la guerre iranienne, à la préparation de la guerre iranienne. Donc il y a eu potentiellement une très grosse pression exercée sur Trump, lui un fusil sur la tempe, l'enjoignant de prendre cette décision de faire la guerre, probablement contre beaucoup de son entourage, qui le rappelait à ses engagements justement de début de deuxième mandat. Et c'est peut-être l'explication majeure. Alors ensuite, quand une guerre est décidée, il y a d'autres intérêts qui peuvent être défendus. On revient à la géopolitique américaine, l'importance de l'énergie, la stratégie qui est effectivement factuelle, le fait qu'aujourd'hui les États-Unis ont plongé l'Asie, donc la Chine quand même en partie, dans une situation difficile sur le plan énergétique. L'Europe aussi, puisque l'Europe a été sommée dans un premier temps de se couper de la Russie, donc du gaz russe et du pétrole russe, avec les sanctions. Et puis, donc, je vais être précis, avant la guerre d'Ukraine, le poids du gaz liquéfié américain dans les importations européennes, c'est moins de 20%. Aujourd'hui, c'est 58%. Et ça ne va pas s'arranger.
Cherchez à qui le crime ou la guerre profite.
Voilà, ça ne va pas s'arranger, monsieur l'abbé, avec l'histoire du détroit d'Hormuz. Donc, vous avez le piège américain se referme sur nous, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus dépendants des États-Unis pour l'énergie, au moment même où les États-Unis nous mettent le couteau sous la gorge à propos du Groenland, à propos de tout un tas de sujets, en nous disant « si vous ne faites pas ce que l'on veut, on coupe le robinet ». Donc voilà, nos piètres dirigeants européens qui n'ont aucune vision, en suivant de manière servile la géopolitique,
comme dit gentiment Trump.
Exactement.
Se prend pour quelqu'un de très intelligent.
Exactement. Et ce sont effectivement des gens qui nous ont mis dans une situation très difficile. Et là, nous pouvons peut-être commencer à spéculer sur ce qui peut se passer, ce qui va advenir. Mais ça n'est pas très rassurant, au moins sur le plan économique.
Pour... C'est la question que j'allais vous poser, parce que l'heure tourne et que malheureusement, il vous reste 5 minutes.
Ah oui. 10 minutes ? Parfait. On va essayer d'être synthétique.
Est-ce qu'avant de passer à la partie spéculation, je peux poser une question ?
Bien sûr.
Je voulais savoir, dans cet échiquier, pour essayer de le compléter, donc en cherchant les causes, comment se situe l'incident au Venezuela avec la prison de Maduro ?
C'était la question de l'abbé Gubitoso.
Voilà. Oui. Alors écoutez, monsieur l'abbé, c'est une bonne question d'avoir inclus le Venezuela. Mais on voit que le Venezuela rentre dans cette stratégie énergétique très, très cohérente qui consiste à s'emparer des principales réserves de pétrole et détruire des nationalismes donc, pétroliers, dont le Venezuela que je n'ai pas cité tout à l'heure. J'avais cité l'Irak, j'ai cité la Libye et l'Iran, mais il y a le Venezuela. Alors le Venezuela, ça s'est fait plus facilement parce que la structure du régime n'était pas la même et ils ont réussi à corrompre la numéro 2. Et donc, là, pour le coup, ils ont fait une forme de régime change sans changer le régime, mais en tout cas de régime contrôle. Voilà, je ne sais pas quel est le terme qu'il faudrait. Voilà, exactement. Donc oui, le Venezuela, j'aurais dû le citer. Vous avez raison, monsieur l'abbé, de le rajouter. S'insère dans cette stratégie globale. Alors, pour terminer en termes de perspective... Moi, je dirais qu'il y a deux volets. Sur le plan géopolitique, c'est peut-être l'opportunité pour les Européens de se réveiller une bonne fois pour toutes et de se dire maintenant, puisqu'ils ont commencé à dire qu'ils ne suivaient pas Trump dans cette aventure pour le détroit d'Hormuz, c'est le moment de redevenir véritablement indépendant, c'est-à-dire indépendant des États-Unis. Et donc, de mon point de vue, c'est le moment de dire nous devons restaurer notre souveraineté aussi énergétique. Là, ça passerait par la sortie de l'idéologie anti-russe et de l'hystérie anti-russe et de redevenir pragmatique et de rouvrir un canal de discussion avec les Russes pour pouvoir, parce qu'on va avoir besoin d'énergie, on va avoir besoin du gaz et du pétrole russe à partir du moment où le Moyen-Orient est les flux, et pas seulement les flux. Ce qui est plus grave que l'interruption des flux, c'est la destruction des infrastructures. C'est ce que les gens ne voient pas forcément. Les gens se disent, bon, ben, les flux sont interrompus, ils peuvent être rétablis. Bien sûr, il peut y avoir une pénurie momentanée, mais ce qui est plus grave, c'est que des infrastructures de production et de raffinage qui mettent des années à être reconstruites, parce que ce sont des infrastructures très, très complexes, qui ne se refont pas en 5 minutes, pour lesquelles il y a très peu, je pense par exemple aux unités de refroidissement, de cryogénisation du gaz, pour transformer le gaz donc gazeux en liquide. Il n'y a que 5 sociétés au monde qui fabriquent ces grosses unités. Elles ont déjà un carnet de commandes qui était saturé. C'est extrêmement compliqué. Donc le gaz qatari, c'est 17% des exportations. C'est pendant un temps assez long, peut-être 2 ans, 3 ans, qu'on ne va pas le revoir sur le marché. Donc il va y avoir des carences énormes sur le marché, mais pas seulement du gaz et du pétrole, des dérivés.
Est-ce qu'on nous vend de l'électrique à tout va ?
Alors oui, on entend déjà cette musique de l'idéologie. Bon, voilà, ça c'est sûr, mais surtout, il va manquer plein d'autres matières. Il manque de l'aluminium, il manque de l'urée pour les engrais, les fertilisants, et donc ça peut créer des famines dans les pays du tiers-monde, parce que les prochaines récoltes vont être calamiteuses. Il manque de l'hélium, je disais tout à l'heure, les IRM, ça va s'arrêter assez vite parce que en fait, c'était concentré à 70% sur les pays du Golfe, la production d'hélium. Donc, en fait, c'est là que nous voyons que dans notre monde globalisé qui fonctionne en flux tendu, où tout le monde dépend de tout le monde, tout d'un coup, il y a une forme de démondialisation brutale qui va s'imposer à nous. Et qui fait que si nos dirigeants n'ont pas un peu de vision et de réactivité, les temps à venir vont être difficiles pour nos concitoyens.
Mais vous, ça fait des lustres que vous dites que la mondialisation est impossible et que Elle n'ira pas.
Oui, ça fait. Alors, elle était possible, mais elle est éminemment vulnérable et fragile, et on en a maintenant la démonstration. C'est-à-dire que c'est une philosophie de la vie qui est une sorte de philosophie consumériste de l'abondance en flux tendu, mais qui est extrêmement fragile. On le voit, il suffit qu'il y ait une crise majeure.
Il y a des alternatives. La fameuse formule de Thatcher, there is no alternative, ça ne marche pas.
Mais là,
on est obligé de trouver des alternatives.
Alors, on les trouvera, parce que je pense qu'il faut. L'homme invente toujours quand même des réponses, mais il va y avoir de la casse, ça c'est sûr. Dans les mois à venir, la transition va être difficile. Très certainement, la tendance, ça va être la recontinentalisation, c'est-à-dire forcément, logiquement, puisque le transport maritime, ça fonctionne moins bien et ça consomme aussi beaucoup. D'énergie, on va peut-être faire davantage de rails en Europe avec l'Asie, etc. Vous voyez, c'est d'autres modes de communication qui vont être privilégiés par substitution.
Oui, c'est passionnant.
Donc les conséquences. Mais pour finir, je dirais que les États-Unis et Israël nous ont mis dans une situation sans nous poser les questions, bien évidemment, nous ont placé de facto dans une position qui a un impact mondial et un impact dramatique, d'abord pour les peuples de la région, parce que le nombre de morts, et je pense aux Iraniens, aux Libanais, aux Israéliens aussi, qui subissent tout ça, mais économiquement, ça va être une situation dramatique, parce que c'est des centaines de milliers d'emplois, voire des millions d'emplois qui vont être concernés. Et la difficulté, peut-être, pour certaines populations de se nourrir.
Presque.
Exactement. Une reconfiguration possible. Oui. Et il faut revenir à la souveraineté et à des principes aussi, sans doute. Et là, c'est au-delà de la géopolitique. Mais s'interroger, effectivement, sur l'individualisme et le consumérisme. Ceux qui s'étaient préparés en dehors du seul empire de la matière seront mieux dotés pour affronter la...
On parle que de ça, mais on ne fait rien.
Exactement. Mais parce que les pseudo-dirigeants que nous n'avons, de toute façon, ne sont pas des gens qui sont sensibles à ce que je viens de dire. Ce sont des gens qui sont prisonniers totalement de la matière, de l'immédiateté, de la futilité.
Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution d'un Thierry Breton, par exemple ? Est quand même le symbole du système.
Oui, son évolution, monsieur l'abbé, c'est-à-dire, vous voyez évoluer de quelle manière ?
Je le vois dire qu'il est patriote, toute chose qu'il ne disait pas.
C'est vrai, c'est ce qu'il dit, mais bon, est-ce que c'est une évolution ?
On n'est pas dans le faire encore.
Une tendance, une mode qui... Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il pense ?
Il a fait l'objet des foudres états-uniennes. Est aussi oui. Sympathique.
Oui, ça, peut-être que ça le réveille, le fait d'être, alors pour le coup, être victime de sanctions ou de difficultés dans son mode de vie mondialisé, peut-être que ça l'éveille. Voilà.
Et qui vous verriez pour porter ce changement
Alors là, très honnêtement, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Je pense... Alors là, je vais faire une réponse qui est très loin de la géopolitique, c'est-à-dire le conseil que j'enverrais aux dirigeants politiques, c'est de ne pas faire l'erreur de tomber dans le piège du matérialisme total. Ne laissez passer les questions de société, la question par exemple de l'euthanasie, qui est gravissime, ce qui est en train de se passer. Et moi, je l'entends, figurez-vous que j'ai... Une grande partie de ma vie, maintenant, je la passe en Afrique ou dans des zones... moins développés, disons, entre guillemets, mais dans lesquels la famille compte beaucoup. Et ces gens sont atterrés de la manière dont une partie de nos populations traite leurs anciens et le rapport à la mort qu'ils ont. Et c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, c'est un vrai, pour le coup, choc des civilisations. C'est qu'il y a un certain nombre de civilisations qui restent centrées sur la vie, la famille, et qui ne comprennent pas. Et je pense que le désamour vis-à-vis de l'Occident, il est là aussi. C'est-à-dire que la perte d'estime vis-à-vis de l'Occident, elle se trouve fondamentalement là, au-delà même des actions entre guillemets impérialistes, brutales, etc. Elle est dans la perte de respect.
D'en finir avec l'individualisme, avec le.
Les lois en question sont votées, donc si elles sont votées, elles peuvent être annulées de la même façon.
Bon, eh bien, écoutez, il nous reste 2 minutes. Vous avez peut-être une conclusion.
Écoutez, moi je pense que nous sommes face à l'inconnu parce que les Américains et les Israéliens ont ouvert les portes de l'enfer. Ça me paraît assez évident. Ils ne savent plus où ils vont.
Voilà.
Alors peut-être qu'Israël sait. Si le but c'est le chaos et la destruction créatrice, c'est plutôt bien réussi. Mais je pense que les États-Unis ne savent plus où ils vont et que ils sont.
On ne sait pas quelle résistance peut leur porter effectivement.
Exactement, et c'est là que nous parlions en préambule de cette émission, la question du péché d'orgueil, c'est-à-dire que et la rivalité mimétique dans les travaux de René Girard, tout ça va jouer parce que nous sommes face à des gouvernements qui ne voudront pas perdre la face. Et ça va avoir un rôle aussi déterminant dans la suite des événements.
Émeric Choprat, c'était un grand bonheur de vous recevoir.
Merci beaucoup, et messieurs les abbés.
Vous nous ferez à nouveau cet honneur.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Avançons.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Chrétienté dirigé par Guillaume de Tannoirne, émission préenregistrée le 1er avril 2026 et diffusée pour la première fois jeudi 2 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.